J'ai pris choisi thème sur la comparaison parce que c'est je trouve que c'est quelque chose qui est avec nous beaucoup tout le temps et c'est un peu normal. On peut commencer de quand on est tout petit, etc. Et en tout cas, je trouve que c'est une attitude, un fait que l'on peut constater dans sa propre vie, dans la vie des gens autour de nous, dans le travail aussi. Il y a toujours comparaison. Alors, c'est pas forcément négatif. Quand je parle de comparaison, c'est une évaluation pour notre propre intérêt ou pas pour notre intérêt. Mais en tout cas, donc j'avais ça à cœur et puis j'ai cherché parce que dans la Bible, il y a beaucoup, on lit beaucoup à propos de la vie des gens. Donc c'est une étude biblique pour les femmes, mais je ne pense pas du tout que le thème de la comparaison soit quelque chose d'exclusivement féminin. C'est quelque chose qui concerne tous les êtres humains, qui concerne tous les êtres humains dans toutes les cultures et je pense au travers de tous les temps. Et donc je vous propose, alors j'ai pas pris ma Bible avec moi, mais elle est sur mon téléphone, et je vais en pensant à différents exemples, je pensais à des femmes, à deux femmes qui sont dans la Bible, dans les temps antiques, et ce sont deux sœurs qui toute leur vie ont été en comparaison, et on va voir. Les fruits que ça a engendrés, je vois que tu souris, donc tu dois te douter de qui je vais parler. Donc en fait, je vais vous lire un passage. On va parler de Rachel et de sa sœur Léa, qui ont été et on va regarder donc en Genèse chapitre 29. Alors pour vous donner un contexte, là il est question du patriarche de Jacob. Le père, celui qu'on va appeler plus tard, que Dieu va surnommer Israël, et qui est à l'origine, donc il y a Abraham, ensuite Abraham a engendré Isaac, et Isaac a engendré Jacob et Ésaü. Alors là, pour l'instant, je vais me concentrer sur Jacob. Et Jacob, en fait, a fait quelque chose d'assez... Comme tous les magouilleurs, puisque c'est ça ce que son nom veut dire. Jacob a volé le droit d'aînesse à son frère. Mais en faisant ça, bah évidemment, son frère n'était pas content. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Son frère, il est parti loin de chez lui, loin de son père, pour échapper à la vengeance. Et il va se réfugier un peu plus loin, dans la terre d'origine d'Abraham. Et là, il tombe sur une belle jeune fille, une bergère qui s'appelle Rachel. Et en fait, il se trouve que Rachel est sa cousine et qui va se réfugier donc chez son oncle qui s'appelle Laban. Donc, voilà. On en est là dans la vie de Jacob. Entre-temps, Dieu lui a apparu, lui a dit « puisque tu as pris le droit d'aînesse, oui, le Messie viendra de toi, etc. » Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Jacob en est là. Et donc, que se passe-t-il pour Jacob ? On va au verset 29. Donc là, il rencontre Rachel. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, fils de Rebecca. Donc, en fait, c'est son cousin. Et donc, Laban, son oncle, l'accueille, etc., etc. Et puis, Laban, donc son oncle, dit à Jacob, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Et Jacob demeura un mois chez Laban. Puis, Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, est-ce que tu me serviras pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Et là, on commence à entendre parler de nos deux héroïnes du jour. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Verset 18, Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Donc là, je vais faire une pause. Déjà, premier point de comparaison, on voit, on voit deux sœurs. L'aînée, on dit qu'elle avait les yeux délicats. Alors, on ne sait pas si elle louchait, on ne sait pas si elle avait un défaut, etc. En tout cas, il n'est pas dit d'elle qu'elle est. Ce qu'on dit tout de suite après, c'est mais Rachel était belle. Déjà, donc je pense que vous grandissez et déjà on vous dit oh, qu'est-ce que ta sœur est jolie. Il y en a une qui a cette réputation-là, qui l'est peut-être, et c'est la cadette. Ça, c'est une chose. Déjà pour se mettre un peu dans la psychologie de ces deux femmes. Et évidemment, Jacob arrive et puis hop, je vais prendre la plus jolie. Non, en tout cas, il aime, il est tombé amoureux de Rachel et il dit à son oncle, je travaille gratuitement 7 ans pour toi et je vais épouser Rachel. Et évidemment, la bandit, j'aime mieux te la donner à toi plutôt qu'à un autre homme. Reste chez moi. Jacob servit 7 années pour Rachel. Elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ça, c'est beau. Et ensuite vient le temps d'épouser Rachel. Et Laban, qui est encore plus magouilleur que Jacob, le soir, il prit Léa, sa fille, l'amena vers Jacob. Donc, erreur de casting, il donne la fille aînée à la place de la cadette. Le lendemain matin, Jacob se réveille. À côté de lui, ce n'est pas Rachel, mais Léa. Il va voir son oncle. « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban, c'est pas la coutume, la tradition, donne toujours l'aîné en premier. « Serre-moi encore 7 ans et tu auras Rachel. » « Achève ta semaine avec Léa. Nous te donnerons le service, etc. » Donc, il se marie. Donc, il travaille 7 ans. Il se marie. Il s'aperçoit qu'on l'a trompé. Il reste une semaine et au bout d'une semaine, il épouse aussi la cadette. Donc, nous voyons ces deux femmes, dont l'une est particulièrement jolie, tout d'un coup, en une semaine, se retrouver être les deux épouses du même homme. Et ça ne fait que commencer. Et là, Dieu intervient. Parce que là, tout ça, ce sont les affaires des hommes. C'est les choix humains, etc. Et au verset 31, on voit « L'Éternel vit que Rachel n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Léa. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Et donc là, je ne vais pas le lire parce que sinon on dirait 2 ou 3 chapitres, mais on voit que à 4 reprises, du coup, donc 4 ans, voire plus, un peu plus, on ne va pas dire qu'elle a, elle a peut-être eu ses filles, mais elle a eu 4 fils. Et à chaque fois, cette femme, à chaque fois qu'elle a un des fils, elle dit là,
mon mari va l'aimer,
par exemple. Dieu, c'est une bénédiction, en fait. Et on voit, c'est écrit textuellement, que Dieu l'a rendue féconde parce qu'il voyait qu'elle n'était pas aimée. En fait, il a commencé à initier quelque chose. Et là, le thème commence véritablement. C'est en Genèse 30. Au bout de 4 grossesses, au bout de 4 fils, Rachel, qui jusque-là a toujours été quand même la favorite, parce que c'était quand même celle pour qui on avait travaillé 7 ans, c'était celle qu'on voulait absolument. C'était celle, pour l'instant, qui n'avait pas d'enfant, mais on ne la voit pas réagir. Et là, Genèse 30, verset 1, première déclaration de Rachel. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » On reconnaît là toute la flamme, toute la passion d'une femme. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le point de départ de mon étude biblique. C'est lorsqu'elle vit qu'elle ne donnait point d'enfant, elle porta envie à sa sœur. Encore une fois, c'est une situation, c'est pas qu'une histoire, je suis pas en train de raconter, de faire un commentaire sur Cendrillon. Ce sont des femmes qui ont vraiment existé, qui ont vraiment eu des souffrances et des situations qu'elles ont peut-être pas forcément choisies et qui étaient constamment en comparaison. Et on voit que Léa, elle se pensait comme étant un échec, enfin que Rachel se voit comme un échec parce qu'elle est stérile. En plus, dans la pensée biblique, de l'époque notamment, la stérilité, c'est une malédiction. C'est Dieu qui permet pas. Les enfants sont une bénédiction. Donc, être une femme aimée, c'est important peut-être pour son ego, mais socialement, ça va pas aller. Il faut être non seulement la femme que l'on aime, mais la femme aussi qui a le plus d'enfants possible, de préférence des garçons. Et là, il y a Léa qui l'a devancée de 4 fils. Donc, et là, on voit, à cause de cet effet de comparaison, et puis comparaison qui ensuite initie, enflamme les choses et devient de la jalousie, ça va devenir une véritable guerre dans la maison. C'est-à-dire que là, Rachel, elle sait qu'elle peut pas avoir d'enfant, donc elle va dire à Jacob, « Ok, j'ai ma servante, prends ma servante, tu me fais un enfant au travers d'elle. » Jacob, fatigué, productif et fatigué, va vers la servante. Elle a un fils. Et là, Rachel se dit, ok, je vais commencer. Alors, Rachel dit des choses toujours. On voit que c'est un tempérament assez feisty, j'allais dire, assez guerrier presque. Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Et il appela son fils du nom de Dan. Deuxième fois, la même servante tombe enceinte une deuxième fois. Jacob est très obéissant. Elle l'appelle Neftali parce que j'ai lutté divinement contre ma sœur. Elle a quatre fils. Moi, j'en ai deux maintenant. Allez, Neftali. Et là, c'est l'escalade. Quand Zilpa tombe enceinte et que Léa voit ça, et puis je pense que Jacob est moins disponible, hein, puisqu'il va pas sous sa tente, il va sous celle de sa sœur ou de la servante de sa sœur. Elle lui dit, moi aussi j'ai une servante, donc tu vas me donner des enfants. Et on voit que c'est une escalade sans fin, sans fin, sans fin. Et de là sort Yagad qui sort, ce qui signifie joie. Encore un deuxième fils, Azer. Et là, au verset 14, c'est le point d'orgue. On voit Ruben, qui est donc un des fils de Léa. Il y a donc Ruben, au verset 14, sorti des champs au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu de choses que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel lui dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, qui devient enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Et ça continue comme ça, encore et encore. Alors, c'est très intéressant de... Je n'ose pas m'imaginer l'ambiance dans la famille. Et tout ça, parce qu'au départ... Il y a ce sentiment de justice ou d'injustice, ce sentiment de comparaison, ce sentiment... Parce que quand je parle de comparaison, on peut parler d'envie, on peut parler de jalousie parfois, et de voir comment avec l'être humain, tant que l'être humain n'a pas rencontré Dieu et n'a pas fait de Dieu... Parce que là, ces deux femmes, elles sont à un niveau... différents l'une et l'autre. On voit que c'est Rachel qui commence à mettre le coup d'accélérateur dans l'escalade de la haine. C'est Rachel qui a jusqu'ici un besoin de revanche, un besoin de justice, et que ça va se concrétiser par le fait de pouvoir absolument avoir au moins autant d'enfants que sa sœur. Alors que Léa, on le voit, elle a tout de suite compris que c'était Dieu qui lui donnait ses enfants. Elle ne commence la bataille que lorsque elle voit que Rachel utilise d'autres moyens détournés. Et ça parle vraiment bien de nos rapports quelquefois, les uns entre les autres. Parfois, on peut être dans une attitude relativement calme, relativement pacifiste, mais quelque chose va arriver et va allumer en nous une espèce de zèle amer, une espèce d'amertume, de comparaison, de jalousie, et on va devenir hors de contrôle. On va partir dans un truc sans fin, où on se dit, mais ça va jamais se terminer. Et puis, je vais pas passer mon temps à parler que de ces deux femmes, mais c'est très intéressant de voir, en fait, les conséquences sur cette famille. Parce que là, en fait, dans tout cette trivialité, ce sont les 12 tribus d'Israël qui sont en train de naître. De Léa, les 10. Rachel en a eu que deux à elle, Joseph et Benjamin. Et on verra que, notamment parmi les mauvaises conséquences de ça, c'est que ces deux femmes se comparaient, mais je pense que ça a été aussi leurs enfants ont fini par se comparer. Ça a distillé de la haine dans la famille. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la seule fois où on voit que Jacob se dispute avec la femme qu'il aime, c'est quand elle lui dit ça, « Fais-moi des enfants ou je meurs. » On voit que la colère de Jacob s'enflamme. Ça aussi, ça peut être un point intéressant de se dire, parfois, mon attitude, alors je pense que c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui me compare, c'est moi qui suis désécurisée, c'est moi qui suis jalouse, mais ça peut avoir une résurgence forte dans mes rapports, dans ma famille, auprès de mon mari, auprès de mes enfants. Et on voit que plus tard, les 10 frères ont détesté Joseph. Les 10 frères se sont montés contre lui. Ils ont été à 2 doigts de le tuer. En tout cas, bon, bah, ils ont fait croire à leur père qu'il était mort et ils l'ont vendu pour être esclave en Égypte. Donc, on voit les conséquences de juste 2 femmes. En apparence, on ne sait pas si elles s'entendaient bien d'ailleurs. Mais en tout cas, je ne sais pas si elles s'entendaient bien et que ça s'est dégradé, mais en tout cas, ça va pas bien. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'était de voir les fruits de... Le fruit de cette attitude. Et j'ai fait exprès de... Là, on voit des fruits qui sont négatifs. Je pense pas que la comparaison... comment dire, ça n'est jamais quelque chose de neutre, en tout cas. Parce que c'est une attitude qui peut instiller en nous, alimenter de l'orgueil. Alors, ça peut être un manque de confiance en soi, qui est de l'orgueil aussi. Hein. Je suis plus nulle que tout le monde. Oh, je suis misérable. Oh, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. C'est quand même de l'orgueil. Ou alors, je suis plutôt pas mal. Hein. T'as vu le gâteau ? C'est moi qui ai fait le gâteau. Hein ? Je suis mieux qu'elle. Ou mieux que lui. Ou voilà. Donc, il faut se méfier de ça. Et je voulais regarder dans le Nouveau Testament. Sur ce que la Bible nous dit. Alors, on peut trouver d'autres exemples de comparaison hein, dans la Bible, mais moi, je pensais à Caïn et Abel, par exemple. Dans les temps immémoriaux, on peut penser aussi au roi Saül vis-à-vis de David, etc. Mais bon, comme on est en une étude biblique pour les femmes, on va rester entre femmes. Et donc, il y a un verset que j'aimerais qu'on lise ensemble, qui est dans le Nouveau Testament. Épître de Jacques. Jacques 3, 14. Donc là, Jacques écrit à l'Église et il dit... Donc en fait, il parle, Jacques, dans ce contexte-là, il parle de ce que l'on dit, de la façon dont on parle. Et il dit, « Mais lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ?» Puis c'est le verset qui m'intéresse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, alors c'est un esprit de dispute ou un esprit de comparaison, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et en fait, Dieu nous met en garde contre cette façon qu'on a de s'évaluer nous soi-même et de nous évaluer les uns vis-à-vis des autres et d'évaluer les gens autour de nous. Et notamment en termes de croyants entre frères et sœurs dans la maison de Dieu, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors je parle pas de nous, mais quelque chose que c'est une attitude, je trouve, qui est très accélérée, qui a toujours été là. Hein, Rachel et Léa, ça date pas d'hier. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'amplification. Peut-être que c'est dû aux réseaux sociaux. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas, là. Et on passe notre temps à regarder la vie des gens. Et à l'évaluer. Et à se comparer. Et à commenter, etc. Et c'est pas le cœur de Dieu, tout simplement. Parce que le cœur de Dieu, c'est, il nous dit de nous aimer les uns les autres. On sait que dans la parole de Dieu, il nous est dit que nous faisons partie du même peuple, des êtres humains. Mais Dieu nous a créés, nous, individuellement. Et même au sein d'une famille de mêmes croyants, on croit en la même chose, etc. Nous sommes établis sur les mêmes principes bibliques. Bah, quand même, ma sœur, par exemple, tu fais la cuisine comme ça, toi? Ah bon? Ou telle maman vis-à-vis d'une autre maman. Ah bon, toi tes enfants, c'est comme ça que ça se passe chez toi. Ah ben chez moi non. Et on peut avoir tendance à, comme un état d'esprit un peu, comment dire, légaliste, un peu jugeant au sein de la même famille. On dit, ah, d'accord. Alors qu'en fait, Dieu nous appelle à une chose. La Bible nous dit, Dieu nous a appelés à une chose, à la liberté. Et donc, ça veut dire quoi? Nous croyons en lui. Il nous a rendu libre du regard des gens autour de nous, libre de notre propre regard. Le regard que j'ai sur moi, si c'est pour me critiquer, si c'est pour me mettre là-haut, alors que je n'ai pas besoin d'être là-haut, si c'est pour me mettre tout en bas, alors que c'est pas le bon regard, je ne suis pas mon propre juge. La chose qui est importante, et c'est ce que la Bible nous dit, on va y venir, c'est d'être assuré de qui je suis. Qui je suis aux yeux de Dieu. Quelle importance est-ce que j'ai aux yeux de Dieu? Ce que Dieu dit de moi, pas ce que je pense de moi. Parce que sinon, je vais passer ma vie à être comme ça. Ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait soleil, je vais bien. Mon banquier m'appelle, je suis à découvert, je vais pas du tout bien. Mon mari me trouve jolie. Mon mari est pas content de moi. Ma copine m'a fait une réflexion. Et je vais jamais connaître cette stabilité et encore moins cette liberté. Alors, je lis ma Bible, je lis que Jésus-Christ m'a affranchi. Je suis appelée à la liberté et moi, je la vis pas du tout dans mon quotidien. Et ça va pas. Donc, quand ça arrive, on s'arrête, on prend un pas en arrière et se dire quelle est mon identité? Quelle est mon identité en tant qu'enfant de Dieu? Premièrement, une chose, c'est je suis une nouvelle créature. Le jour où j'ai accepté Christ comme mon sauveur, le jour où j'ai reconnu la présence de Dieu, j'ai reconnu que Dieu et qu'il y avait un Dieu qui existait et que j'ai découvert, que j'ai accepté que le sacrifice de Christ à la croix, c'était tout ce que Dieu me demandait pour que je sois acceptable à ses yeux, acceptable et juste, et que je peux être réconciliée avec Dieu au travers du sang versé de l'agneau. Au travers du sang de Jésus, je suis une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxièmement, là où il y a Dieu, donc 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ça, c'est une chose, vraiment, ne nous mettons pas, nous, dans des prisons mentales. Dieu nous a appelés pour être libres devant lui. J'aime l'orange. Si je suis une personne qui est dans une communauté où tout le monde te dit que non, c'est le noir. Non, moi j'aime l'orange quand même. C'est pas pour être dissidente. C'est pas pour me faire remarquer. Mais Dieu m'octroie ce privilège et ce droit d'aimer l'orange, par exemple. Je parle forcément de choses très banales, mais ça peut être des choses beaucoup plus profondes que ça. Je suis acceptée dans le bien-aimé. Romains 5, 1. Je suis acceptée dans le bien-aimé. J'aurais dû l'écrire sur mon... Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis plus condamnée. Romains 8. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis cachée en Jésus-Christ. Je crois que c'est une des notions que je préfère. Je suis cachée en Christ. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, évidemment. Ma valeur est fixée par Dieu et pas par moi. Ma valeur n'est pas fixée non plus par le regard des gens autour de moi. Ça, si vous voulez le lire, c'est un psaume... Pareil qu'on donne souvent quand un enfant naît, en psaume 139, « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ça, c'est un des derniers versets, mais voilà. Et ensuite, en Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Je suis adoptée. Je suis une enfant adoptée. Je ne serai jamais répudiée. Mon père d'adoption ne me retirera pas mon droit d'être enfant. Dieu s'est sacrifié, il a payé le prix pour moi. Encore une fois, je sais que c'est très, ça fait, c'est très, je suis très dans les fondamentaux, mais c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup reçu en étant à Budapest, en disant, je ne peux tirer mon identité, je ne peux pas la tirer de ce que mes parents disent de moi, de ce que mes amis disent de moi, pour le côté positif, de ce que je peux penser de bien de moi. Mon identité, elle vient en premier lieu de ce que Dieu dit de moi. Et en fait, tout va résider dans ma capacité, mon humilité à l'accepter. C'est pas qu'est-ce que j'ai besoin de faire, c'est est-ce que je le crois, est-ce que je le reçois. Et ensuite, j'espère que c'est pas trop long, mais il y a ça, donc je parle de la comparaison. Si je dois me comparer, je dois me comparer à Dieu. La marche est haute. Mais, la marche est haute, mais il m'aime. Et c'est lui qui a comblé cette distance. C'est lui qui est venu, c'est lui qui est mort pour moi. C'est lui qui a tout fait pour moi. Donc ça va, je suis rassurée, je suis assurée de son amour. Dieu parle d'avance, il prévient, il fait des promesses, à moi de me les approprier et d'y croire. Et ensuite, qu'est-ce que ça implique dans cette notion, si j'ai un esprit de dispute, un esprit un peu amer, un esprit un peu de juger ou de me comparer? Et là, on a des belles instructions dans l'épître aux Romains, en Romains 14. Vous savez, quand je vous dis, ah, mais toi, t'es maman, t'élèves tes enfants comme ça. Ah, toi, t'es célibataire. Ben, moi aussi, je suis célibataire. Ah, mais tu vis pas ton célibat comme moi. Ah, vous faites ça, vous, dans votre église. Ah, ben, nous, non, dans la nôtre, on fait pas ça comme ça. Ah, au Pérou, ils font ça, vraiment. Oh, c'est bizarre. Manger des cochons d'Inde au Pérou. Oh. Ah bon? Oh. Ah, en Chine, vous faites ça? Ah ben nous, en Auvergne, vous voyez, ce genre de choses. Parce qu'on peut, je pense que c'est vraiment un état d'esprit dont il faut se méfier, parce que ça gâte, ça distille pas le parfum de Christ, et on est appelé pour s'aimer. En fait, la Bible nous dit, vous devez rien que de vous aimer les uns les autres. Vous ne vous devez rien que de vous aimer les uns les autres. Et on voit, je vais regarder en Romains 14. C'est magnifique. Peut-être que je vais le lire. Je vais pas le lire je vais le lire dans une autre version. Je vais regarder un français plus courant. Et là, c'est vraiment, ça parle des relations fraternelles. Romains 14. Et là, c'est tout un chapitre où l'apôtre Paul parle des forts et des faibles. On part en se disant fort c'est bien, faible c'est nul. Mais des problèmes de conscience peut-être qu'on a. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Ça, c'est l'esprit de comparaison. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Son maître étant Dieu, là. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a pouvoir de l'affermir. Telle personne fait une distinction entre les jours, telle autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, et ça c'est la clé de tout, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et en fait, c'est quelque chose qu'en fait, quand on... J'ai beaucoup passé temps à penser à ça. C'est ce qui me donne la paix. Si je suis en vie, c'est pour Dieu. Qui je suis lui est agréable, parce qu'il a versé son sang pour moi. Je suis pas condamnée, ni par moi, par ma propre conscience, ni par les autres. Et j'accepte que les gens soient différents. J'accepte... Oui, j'accepte que un tel va dire il n'est pas bon de prendre du vin. Et moi, je pense autrement. Et je vais pas arriver en disant, eh bien, moi, je pense que je suis suffisamment forte pour gérer mon vin. Et toi, bah, t'es faible. Ou toi, tu fais ceci comme cela, mais moi, je suis pas d'accord. Et je trouve que c'est tellement important de préserver notre cœur là-dedans. Parce que ça va nous permettre de nous occuper des choses qui sont vraiment essentielles, à savoir la fraternité. Premièrement, mon identité, elle est en Christ, elle n'est pas dans le regard des gens. Je n'ai pas besoin de me comparer pour avoir une juste évaluation de ma personne. Et de savoir que si je me trompe, parce que je me trompe et je me trompe régulièrement, si je me trompe, c'est devant Dieu. Si en me trompant, j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais aller voir la personne tranquillement, je vais pas hésiter à lui demander pardon. La personne peut ne pas accepter mes excuses, là aussi. Ce n'est pas à moi de lui dire « Ah, mais attends, on est entre croyants, tu dois me pardonner. » Non, 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 non. Peut-être que la personne, justement, vous savez, quand il est parlé de fort et de faible, peut-être que la personne, à ce moment-là, n'a pas la capacité pour me pardonner. J'ai fait ce qu'il fallait et j'essaie de vivre simplement avec une conscience pure. Mais quand c'est pas « Ben moi, c'est bon, j'ai ma conscience, toi, tu fais ce que tu veux. » Et vous savez, avec cette espèce de froideur. Non, c'est pas ça. C'est je continue et je vois la personne à côté de moi. Je suis plus coupable, plus manipulable parce que je lui ai fait du tort et que parce que quelquefois, c'est ça. On peut se disputer. Je te demande pardon. Mais est-ce que tu m'as vraiment pardonné? Et je peux développer une espèce de relation très étrange, très bancale, où quelque part, je vais te rembourser pour quelque chose que j'ai fait il y a 17 ans. Non, ça y est, tu as demandé pardon, c'est fait. Une fois pour toutes, je marche tranquillement là-dedans. Et je suis sereine, en sachant que ma vie, elle est vraiment sous un regard favorable. C'est le regard du Seigneur. Et quand on est établi dans là-dedans, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on reçoit la grâce et la faveur de Dieu, à notre tour, on est vraiment en capacité d'être gracieux, de pas jeter un regard de condamnation, de pas jeter un regard de jugement, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. On peut voir un visage en disant « Oh, bah, elle me regarde comme ça, ça veut dire que… » Non, 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 je n'en sais rien, je n'en sais strictement rien. Je fais confiance à Dieu, je fais confiance aussi que la personne, peut-être s'il y a quelque chose qui va pas, vienne me voir aussi, parce que ça fait partie des bonnes relations que l'on peut avoir. Et en tout cas, je prends pour moi cette liberté que Dieu m'offre de vivre tel que je suis, sans chercher à obtenir une reconnaissance quelconque de la part de quelqu'un d'autre.